le capital, toujours plus inégalement réparti que le travail. La première régularité que l'on observe en pratique lorsque l'on cherche à mesurer les inégalités de revenus est que l'inégalité face au capital est toujours beaucoup plus forte que l'inégalité face au travail. La répartition de la propriété du capital et des revenus qui en sont issus est systématiquement beaucoup plus concentrée que la répartition des revenus du travail. Deux points méritent d'être précisés immédiatement. Tout d'abord, on retrouve cette régularité dans tous les pays à toutes les époques pour lesquelles des données sont disponibles, sans aucune exception, et chaque fois de façon très massive. Pour donner un premier ordre de grandeur, la part des 10% des personnes recevant le revenu du travail le plus élevé est généralement de l'ordre de 25-30% du total des revenus du travail, alors que la part des 10% des personnes détenant le patrimoine le plus élevé est toujours supérieure à 50% du total des patrimoines et monte parfois jusqu'à 90% dans certaines sociétés. De façon peut-être plus parlante encore, les 50% des personnes les moins bien payées reçoivent toujours une part non négligeable du total des revenus du travail, généralement entre un quart et un tiers, approximativement autant que les 10% les mieux payés. Alors que les 50% des personnes les plus pauvres, en patrimoine, ne possèdent jamais rien, ou presque rien, toujours moins de 10% du patrimoine total, et généralement moins de 5%, soit 10 fois moins que les 10% les plus fortunés. Les inégalités face au travail apparaissent le plus souvent comme des inégalités apaisées, modérées, presque raisonnables, autant qu'une inégalité puisse l'être. Nous verrons que ce point ne doit pas être exagéré. Par comparaison, les inégalités face au capital sont toujours des inégalités extrêmes. Ensuite, il faut insister dès maintenant sur le fait que cette régularité n'a en soi rien d'évident, et nous informe assez précisément sur la nature des processus économiques et sociaux à l'œuvre concernant la dynamique de l'accumulation et de la répartition des patrimoines. En effet, on peut aisément imaginer des mécanismes impliquant une répartition des patrimoines plus égalitaire que celle des revenus du travail. Par exemple, supposons qu'en un point donné du temps, les revenus du travail reflètent non seulement l'inégalité permanente des salaires entre les différents groupes de travailleurs, en fonction notamment du niveau de qualification et de la position hiérarchique des uns et des autres, mais également des chocs de court terme, par exemple, si les salaires ou les durées du travail dans les différents secteurs d'activité fluctuent fortement d'une année sur l'autre et au cours des trajectoires individuelles. Il en résulterait alors une très forte inégalité des revenus du travail, en partie factice, puisqu'elle diminuerait si l'on mesurait les inégalités sur une période plus longue, par exemple sur 10 années et non sur une seule, comme on le fait habituellement faute de données plus longues, ou même sur l'ensemble de la vie des individus, ce qui serait l'idéal afin d'étudier véritablement les inégalités d'opportunité et de destin dont parle Vautrin, mais qui, malheureusement, sont souvent très difficiles à mesurer. Dans un tel monde, l'accumulation de patrimoine pourrait correspondre principalement à un motif de précaution. On fait des réserves en prévision d'un choc négatif à venir, auquel cas l'inégalité des patrimoines serait plus réduite que celle des revenus du travail. Par exemple, l'inégalité des patrimoines pourrait avoir le même ordre de grandeur que l'inégalité permanente des revenus du travail, mesurée sur l'ensemble de la carrière professionnelle, et serait donc nettement inférieure à l'inégalité instantanée des revenus du travail, mesurée en un point donné du temps. Tout cela est logiquement possible, mais manifestement peu pertinent, puisque l'inégalité des patrimoines est partout et toujours beaucoup plus massive que l'inégalité des revenus du travail. L'accumulation de précautions en vue de chocs de court terme existe bel et bien dans le monde réel, mais il ne s'agit visiblement pas du principal mécanisme permettant de rendre compte de la réalité de l'accumulation et de la répartition des patrimoines. On peut également imaginer des mécanismes impliquant que l'inégalité des patrimoines soit comparable par son ampleur à celle des revenus du travail. En particulier, si l'accumulation patrimoniale était principalement déterminée par un motif de cycle de vie, on accumule en vue de la retraite, comme l'a théorisé Modigliani, chacun devrait accumuler un stock de capital plus ou moins proportionnel à son niveau de salaire, afin de maintenir approximativement le même niveau de vie, ou la même proportion du niveau de vie, après la cessation d'activité. Dans ce cas, l'inégalité des patrimoines serait une simple translation dans le temps de l'inégalité des revenus du travail, et n'aurait qu'une importance limitée en tant que telle, puisque la seule véritable source de l'inégalité sociale serait l'inégalité face au travail. Là encore, un tel mécanisme théorique est logiquement plausible et joue évidemment un rôle non négligeable dans le monde réel, surtout dans des sociétés vieillissantes. Mais d'un point de vue quantitatif, il ne s'agit pas du mécanisme principal en jeu. L'épargne de cycle de vie, pas plus que l'épargne de précaution, ne permet d'expliquer la très forte concentration de la propriété du capital que l'on observe en pratique. Les personnes âgées sont certes plus riches en moyenne que les jeunes, mais la concentration des patrimoines est en réalité presque aussi forte à l'intérieur de chaque groupe d'âge que pour la population prise dans son ensemble. Autrement dit, contrairement à une idée répandue, la guerre des âges n'a pas remplacé la guerre des classes. La très forte concentration du capital s'explique notamment par l'importance de l'héritage et de ses effets cumulatifs. Par exemple, il est plus facile d'épargner quand on a hérité d'un appartement et que l'on n'a pas de loyer à payer. Le fait que le rendement du patrimoine prenne souvent des valeurs extrêmes joue également un rôle significatif dans ce processus dynamique. Nous reviendrons de façon détaillée dans la suite de cette troisième partie sur ces différents mécanismes et sur la façon dont leur importance a évolué dans le temps et l'espace. À ce stade, retenons simplement que l'ampleur de l'inégalité du capital, dans l'absolu et relativement à l'inégalité des revenus du travail, oriente vers certains mécanismes plutôt que d'autres. Inégalité et concentration, quelques ordres de grandeur. Avant d'analyser les évolutions historiques observées dans les différents pays, il est utile de décrire plus précisément les ordres de grandeur qui caractérisent généralement l'inégalité face au travail et face au capital. L'objectif est de permettre au lecteur de se familiariser avec des chiffres et des notions, déciles, centiles, etc., en apparence un peu techniques, voire rébarbatifs pour certains, mais qui sont en réalité très utiles pour analyser et comprendre les transformations de la structure des inégalités dans les différentes sociétés, pour peu qu'on les utilise correctement. Pour cela, nous avons indiqué dans les tableaux 7.1, 7.2 et 7.3 des exemples de répartition observés dans différents pays et à différentes époques. Les chiffres indiqués sont volontairement arrondis et approximatifs, mais ils permettent de se faire une première idée de ce à quoi correspond une inégalité faible, moyenne ou forte dans le monde qui nous entoure et dans l'histoire. D'une part, pour les revenus du travail, tableau 7.1, d'autre part, pour la propriété du capital, tableau 7.2, et enfin, pour l'inégalité totale des revenus lorsque l'on additionne revenus du travail et du capital, tableau 7.3. Par exemple, pour ce qui est de l'inégalité face au travail, on constate que dans les sociétés les plus égalitaires, comme les pays scandinaves dans les années 1970-1980, les inégalités ont légèrement progressé en Europe du Nord depuis cette époque, mais ces pays demeurent les moins inégalitaires, la répartition se présente approximativement de la façon suivante. Si l'on considère l'ensemble de la population adulte, alors les 10% de la population recevant les revenus du travail les plus élevés reçoivent à peine plus de 20% de la masse totale des revenus du travail. En pratique, il s'agit pour l'essentiel de la masse des salaires. Les 50% les moins bien payés en reçoivent environ 35% et les 40% du milieu touchent donc de l'ordre de 45% du total. Il ne s'agit certes pas d'une égalité parfaite, puisque dans ce cas, chaque groupe aurait dû percevoir l'équivalent de sa part dans la population. Les 10% les mieux payés devraient recevoir exactement 10% de la masse des revenus en jeu, et les 50% les moins bien payés devraient en recevoir 50%. Mais il s'agit d'une inégalité qui n'est pas trop extrême, tout du moins par comparaison à ce que l'on observe dans d'autres pays et à d'autres époques, et surtout à ce qu'on constate un peu partout pour la propriété du capital, y compris dans les pays scandinaves. Par exemple, aux États-Unis, les 10% les plus riches reçoivent environ 35% de la masse totale des revenus du travail, et les 50% les plus pauvres, seulement 25%. Afin que chacun puisse se faire une idée sur ce que signifient réellement de tels chiffres, Il est important de faire le lien entre d'une part ce type de répartition exprimé en pourcentage du total à répartir et d'autre part les salaires sonnants et trébuchants que touchent les travailleurs en chair et en os qui composent ces répartitions, ou bien les patrimoines immobiliers et financiers que détiennent les propriétaires bien réels qui peuplent ces hiérarchies. Concrètement, si les 10% les mieux payés reçoivent 20% de la masse salariale, par définition, cela signifie que chacun dans ce groupe gagne en moyenne deux fois le salaire moyen en vigueur dans le pays considéré. De même, si les 50% les moins bien payés reçoivent 35% de la masse salariale, alors cela implique mécaniquement que chacun dans ce groupe gagne en moyenne un peu plus des deux tiers, exactement 70% du salaire moyen. Et si les 40% du milieu reçoivent 45% de la masse salariale, alors cela signifie que leur salaire moyen est légèrement plus élevé que le salaire moyen observé pour l'ensemble de la société. Par exemple, si le salaire moyen dans le pays considéré est de 2000 euros par mois, cette répartition implique que les 10% les mieux payés gagnent en moyenne 4000 euros par mois, les 50% les moins bien payés touchent 1400 euros par mois et les 40% du milieu reçoivent en moyenne 2250 euros par mois. En ce sens, ce groupe intermédiaire correspond bien à une grande classe moyenne dont le niveau de vie est souvent assez proche du revenu moyen de la société en question. Classe populaire, classe moyenne, classe supérieure. Précisons à ce sujet que les dénominations de classe populaire, définies comme les 50% du bas, classe moyenne, les 40% du milieu, c'est-à-dire les 40% compris entre les 50% du bas et les 10% du haut, et classe supérieure, les 10% du haut, que nous utilisons dans les tableaux 7.1, 7.3, sont évidemment arbitraires et discutables. Nous les avons introduites de façon purement illustrative et suggestive, afin de fixer les idées, mais en réalité, ces termes ne jouent pratiquement aucun rôle dans notre analyse et nous aurions aussi bien pu appeler classe A, classe B et classe C les groupes sociaux en question. Dans le cadre du débat public, ces questions de terminologie n'ont généralement rien d'anodin. La façon dont elles sont tranchées par les uns et les autres reflète souvent des prises de position implicites ou explicites quant à la justification et la légitimité des niveaux de revenus et de patrimoine détenus par tel ou tel groupe. Par exemple, certains utilisent l'expression « classe moyenne » de façon très extensive pour désigner des personnes se situant nettement à l'intérieur du décile supérieur de la hiérarchie sociale, les 10% les plus élevés, voire tout près du centile supérieur, les 1% les plus élevés. En général, l'objectif poursuivi est d'insister sur le fait que ces personnes, bien que disposant de ressources assez sensiblement supérieures à la moyenne en vigueur dans la société considérée, conservent tout de même une certaine proximité à la moyenne. Il s'agit donc d'indiquer que ces personnes ne sont pas des nantis et qu'elles méritent amplement la clémence des autorités publiques et notamment du fisc. D'autres, parfois les mêmes, refusent toute notion de classe moyenne et préfèrent décrire la structure sociale comme opposant une immense majorité de classes populaires et moyennes, le peuple, et une infime minorité de classes supérieures, les élites. Une telle grille peut être pertinente pour décrire certaines sociétés ou peut-être plutôt pour analyser certains contextes politiques et historiques dans certaines sociétés. Par exemple, dans la France de 1789, on estime généralement que l'aristocratie représentait entre 1% et 2% de la population, le clergé moins de 1%, et le tiers-état, c'est-à-dire tout le peuple, des paysans à la bourgeoisie, dans le cadre du système politique en vigueur sous l'Ancien Régime, plus de 97%. Notre objectif ici n'est pas d'instituer la police des dictionnaires et du langage. Sur ces questions de dénomination, chacun a tout à la fois raison et tort. Chacun a de bonnes raisons d'utiliser les termes qu'il emploie et a tort de dénigrer ceux choisis par les autres. La façon dont nous définissons la classe moyenne, les 40% du milieu, est hautement contestable puisque, par construction, toutes les personnes que nous incluons dans ce groupe ont en réalité des revenus ou des patrimoines supérieurs à la médiane de la société considérée. Comme nous l'avons déjà noté, la médiane désigne le niveau au-dessous duquel se trouve la moitié de la population. En pratique, la médiane est toujours plus faible que la moyenne, car les répartitions sont toujours assez étirées vers le haut, ce qui tire la moyenne vers le haut et non la médiane. Pour les revenus du travail, la médiane est typiquement de l'ordre de 80% de la moyenne, par exemple autour de 1600 euros de salaire médian pour un salaire moyen de 2000 euros. Pour les patrimoines, la médiane peut être extrêmement faible, souvent à peine 50% du patrimoine moyen, voire quasi nul si la moitié la plus pauvre de la population ne possède presque rien. On pourrait tout aussi bien choisir de découper la société en trois tiers et nommer classe moyenne le tiers véritablement au milieu. Il nous semble toutefois que notre définition correspond davantage à l'usage le plus répandu. L'expression « classe moyenne » est généralement utilisée pour désigner des personnes qui s'en sortent assez nettement mieux que la masse du peuple, tout en demeurant bien éloignées des véritables élites. Mais tout cela est éminemment discutable, et nous n'avons pas à prendre position ici sur cette délicate question tout à la fois linguistique et politique. En vérité, toute représentation de l'inégalité fondée sur un petit nombre de catégories est vouée à être schématique et grossière, puisque la réalité sociale sous-jacente est toujours celle d'une répartition continue. À tous les niveaux de revenus et de patrimoine, il existe toujours un certain nombre de personnes en chair et en os, dont les caractéristiques et l'importance numérique varient lentement et progressivement en fonction de la forme de la répartition en vigueur dans la société considérée. Il n'existe jamais de rupture discontinue entre les différentes classes sociales, entre le monde du peuple et celui des élites. C'est pourquoi notre analyse se fonde entièrement sur des notions statistiques à base de déciles, les 10% les plus élevés, les 40% du milieu, les 50% du bas, qui ont le mérite d'être définis exactement de la même façon dans les différentes sociétés, et qui permettent donc de faire des comparaisons rigoureuses et objectives dans le temps et l'espace, sans chercher à nier la complexité propre à chaque société, et en particulier le caractère fondamentalement continu de l'inégalité sociale.